Cours de philosophie de la matière à Rimont par le père Philippe, 24 novembre 1989, premier cours.
Y a-t-il des questions par rapport à ce qu'on a pu dire? Oui.
Par rapport au lieu, est-ce qu'on peut garder aujourd'hui ce que semble dire Aristote sur la finalité dans le lieu? Est-ce que le lieu représente une finalité?
Oui, évidemment, dans la physique, Aristote dit péras, il dit pas télos. Je n'ai pas eu le temps de reconsulter le De Cello, parce que c'est dans le De Cello que de fait on voit le plus le point de vue, comme le nom l'indique, le lieu ultime. Il semblerait, vous voyez, c'est là où je voudrais creuser un peu, je crois qu'on devrait creuser. Il semblerait que toute la question du lieu, pour Aristote, je l'ai déjà dit, mais je le reprends, parce que ce sont des notions qui sont assez difficiles. Je crois qu'il faut les redécouvrir au plan philosophique, dans une purification que la science actuelle nous oblige de faire. Il est bien évident que dans une perspective scientifique, moderne, il n'y a pas de lieu. C'est pas la peine d'en chercher, il n'y en a pas, ça ne peut pas. Vous êtes dans le conditionnement, vous êtes dans le point de vue de la mensuration, vous êtes dans le point de vue des lois. Il n'y a pas de lieu pour les lois. Le lieu ne peut être lié qu'au jugement d'existence. Il faut donc repartir sur la question du mouvement local. C'est seulement le mouvement local qui nous permet de comprendre ce que c'est que le lieu. Le mouvement local dans ce qu'il a de plus simple. Mais là, vraiment, en philosophie de la matière, on retouche des expériences très simples. Le corps qui tombe, le feu qui s'élève. C'est quand même toujours un point d'admiration, ça. Le feu nouveau, vous savez, chaque nuit, liturgique, c'est quand même quelque chose, hein, le feu nouveau qui s'élève au ciel et qui illumine toute la liturgie pascale. Et ça commence par le feu. Et il y a quand même là une réalité symbolique. Ce fait que le mouvement local est un mouvement vers la terre et un mouvement vers le ciel, vers la sphère. On aurait un mouvement vers la terre qui serait péras, qui serait la limite. On ne peut pas descendre plus bas. Donc c'est la limite. Et la limite péras n'est pas une fin. C'est un conditionnement. Le mouvement local s'arrête. Il atteint son terme. Il ne peut pas aller plus loin. Dans le mouvement vers le haut, au contraire, on aurait télos, la fin. Je cherche avec vous, hein, parce que c'est des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup philosophé. Depuis Aristote, saint Thomas a simplement repris tout Aristote, en précisant quelquefois, mais il n'a rien ajouté au point de vue philosophique. C'est normal. C'est la science moderne de saint Thomas à Descartes qui a découvert toute la physique et qui a remis tout ça en question. Puis il y a Kant, l'espace. Alors là, on noie le poisson, radicalement. Avec l'espace, il n'y a plus de lieu. On est tout simplement dans l'intervalle. si au contraire, si je veux repenser le lieu, et je crois que je dois le faire, au point de vue de la philosophie de la matière, je vois que dès que je suis en face d'une réalité physique, le conditionnement et la finalité, voyez, sont très liés et en même temps s'opposent radicalement. Le mouvement vers le bas et le mouvement vers le haut, ça peut être plus opposé au point de vue des contraires, pas des contradictoires, mais au point de vue des contraires. C'est deux mouvements les plus opposés. Et je crois qu'on peut dire la limite et la fin. Pourquoi ? Parce que quand la Terre tombe vers le centre de la Terre, elle n'acquiert pas quelque chose de plus. Tandis que quand le feu s'élève vers le ciel, il s'élève vers quelque chose de supérieur. Pour les anciens, c'est très net, puisqu'il s'élève vers le point de vue de la quintessence. Pour nous, ce n'est pas la quintessence, mais c'est quand même le mouvement vers le haut. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas à chercher de ce côté-là pour essayer de comprendre comment le lieu à la fois nous colle, nous localise, donc nous conditionne. On est dans un lieu. On est localisé par le corps supérieur. On est donc conditionné par lui. Et en même temps, il y a un autre aspect du lieu, beaucoup plus difficile à préciser. C'est l'aspect du corps qui aspire vers un corps supérieur. Parce que je ne peux pas dire que le repos du centre de gravitation est un corps supérieur. Et de l'autre côté, il y a vous voyez, Péras et Télos sont très liés au mouvement local. Et le mouvement local va impliquer les deux. Alors est-ce que ça ne fait pas entrer profondément dans ce que représente le corps physique? Il est à la fois partie de l'univers, localisé par le bas, et en même temps, comme partie de l'univers, il est tendance vers le tout. C'est le tout qui donne au monde physique sa signification ultime. Comme toujours, le tout donne à la partie sa signification ultime. Notre univers, nous ne savons pas la figure de notre univers, mais je crois qu'on peut affirmer philosophiquement qu'elle est sphérique. Je la vois pas. Je crois qu'elle ne peut être que sphérique. Ça ne peut être que le tout. Et donc, on est parti de ce tout et on est ordonné vers ce tout. Vous voyez, la finalité est immanente au monde physique. Elle n'est pas extrinsèque au monde physique. Et donc, je ne dis pas qu'elle est double, mais elle a deux aspects. L'aspect limite, péras, et l'aspect telos, dépassement, dans le lien avec le tout. Il me semble. Comme l'univers physique n'est jamais sans la vie, on peut dire que l'univers physique est pour la vie. Et la vie est pour le corps de l'homme. Donc, vous voyez comment je peux, par le point de vue de la vie, remonter jusqu'au corps de l'homme. Le corps de l'homme est partie de l'univers, mais il est beaucoup plus que partie de l'univers, il est partie principale. Alors, dans quelle mesure pouvons-nous comprendre que le fait de supprimer ce point de vue des corps célestes, de la quintessence, permet par le fait même de mieux comprendre que le monde physique n'est pas clos en lui-même. Il n'est pas éternel. C'est un monde qui est terrestre, contingent. Il a eu un commencement, il aura une fin. Il est ordonné à la vie. C'est sa finalité. Mais extrinsèque à lui. Il est ordonné au corps vivant. Donc au vivant. Et les vivants sont ordonnés à l'homme. Qui est le corps le plus parfait. Vous voyez, alors du côté du haut, on peut dire que le corps de l'homme remplace pour nous ce que les anciens disaient des sphères célestes. Ça met une finalité extrinsèque au monde physique, mais ça redonne au monde physique son vrai sens. Le monde physique est pour les vivants. Et voyez, là, je touche ce point de vue d'une certaine finalité. Si le monde physique est pour les vivants, le monde vivant finalise le monde physique et le localise. Il me semble qu'on peut dire ça. Si vous avez des difficultés, dites-le, parce que c'est important pour nous, étant donné qu'on doit chercher ça. C'est en réfléchissant depuis les derniers cours là-dessus. Il me semblait qu'on devait préciser ces deux aspects. Et je n'avais pas assez précisé la dualité des mouvements, le haut et le bas. Qui, vous voyez, le haut et le bas sont tous les deux mouvements qui nous aident à comprendre le lieu d'en bas et le lieu d'en haut. Le lieu d'en bas ne finalise pas. Le lieu d'en haut finalise. Le lieu d'en bas limite. Le lieu d'en haut finalise. Oui.
Est-ce que ça ne dépend pas des corps? Parce que pour la Terre, c'est le lieu d'en bas qui finalise.
Non, il finalise pas. C'est la limite.
Parce que le lieu comme limite, c'est valable pour n'importe quel corps.
Oui. Le lieu est toujours limite. Toujours. La limite de l'enveloppant. Peras tu per peri et contos. C'est la limite de l'enveloppant. Ça, je crois que c'est très juste. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a le mouvement d'en haut. Et le mouvement d'en haut fait plus, vous voyez, que limiter. Il finalise. Parce qu'il va vers ce qu'il y a de plus parfait.
Mais il finalise certains corps, pas tous.
Tous dans la mesure où ils ont du feu.
Oui.
Comme je peux passer par le feu de la terre, même la terre est remplie de feu. C'est pas une terre vivante, c'est pas une matière vivante, c'est une matière ignée. Quand vous voyez du charbon rempli de feu, quand vous voyez le verre rempli de feu, matière ignée, c'est très beau.
Placer toujours dans le ciel tous les êtres les plus parfaits.
Ah oui, pour les anciens. Oui, oui. Ça fait partie des traditions religieuses, ça fait partie de... Enfin, nous ne pouvons plus accepter ça.
Mais est-ce qu'on peut dire que c'est par ce mouvement d'ascension, il y a comme une ouverture
vers... Oui, il y a une ouverture vers quelque chose de parfait. Très très mystérieux le feu. Oh, sûrement dans un jugement de sagesse, hein. Là je regarde, maintenant dans un jugement de sagesse, si Dieu a voulu le feu, c'est évident dans notre monde physique, le feu et la lumière, conséquence du feu, qui est l'aspect le plus parfait de notre univers physique. Les éthérés, le feu et la lumière, ça a une signification ultime. Alors, n'allons pas trop vite vers le point de vue symbolique, essayons de comprendre dans le monde.
justement entre le feu qui finalise et le corps de l'homme.
Faisons attention, le feu est finalisé par le lieu suprême. C'est pas le feu qui finalise.
Oui, mais le haut, justement, qui finalise.
Le haut. Le haut finalise. Qu'est-ce que c'est que le haut? Le feu tend vers. Toujours à monter.
On pourrait parler simplement de direction.
Comme finalité.
Oui. On pourrait parler de limite pour la terre, de direction pour le haut, et de fin pour le corps.
Pour le corps vivant.
Vous voyez, les trois.
Oui.
Pour l'extrinsèque.
Quand on dit que la fin est immanente, ça veut dire une direction du mouvement. Vous voyez? Quand je dis la fin est immanente, je veux dire qu'elle n'est pas extrinsèque. Donc on ne cherche pas quelque chose d'autre. Oui. La fin, la limite du corps enveloppant, c'est autre chose. Mais la fin n'est peut-être pas autre chose. Alors, il faudrait se demander si même la limite du corps enveloppant est autre chose. Parce que nous imaginons un autre corps. Un corps supérieur ou inférieur, puisque la terre représente l'élément physique le plus imparfait. Alors on dit la terre, le centre de la terre. Oui. C'est très très curieux comme conception. Et je crois qu'il y a quelque chose, hein, c'est ça que je ne veux pas abandonner. Il y a quelque chose de très difficile à saisir. Mouvement local vers le bas. Mouvement local vers le haut. On revient toujours à ça. Péras, la limite de l'enveloppant. Alors, la limite de l'enveloppant, pour le mouvement vers le bas, est une limite. Pour le mouvement vers le haut, c'est ce qui finalise. Alors, vous auriez la direction. C'est ce qui finalise. Le feu. Immanent, mouvement physique donc immanent, c'est-à-dire parce que de sa nature il doit monter. C'est sa propre nature. Donc la fin est immanente à lui. Et cette fin permet de comprendre ce mouvement vers le haut, et ce mouvement vers le haut le finalise, le qualifie, exprime sa qualité propre de corps supérieur. Et je crois que c'est toujours, c'est pas commun du tout, hein. C'est toujours par le mouvement local que nous devons saisir le lieu. Là, nous avons une expérience. Nous avons une expérience. Le mouvement local existe vers le bas, vers le haut. Toujours, hein. C'est le premier. propre de la limite. On est conditionné par la limite. On est aliéné par la limite. La limite nous aliène. Vous dites jamais que la limite vous conditionne, vous finalise. Je suis en prison. Je suis limité par les barreaux. J'ai une clôture, je ne peux pas sortir. Je suis limité par ça. Je ne dis pas que c'est ce qui finalise. Ça limite. Mais il peut avoir, dans le mouvement vers le haut, comme une aspiration. Je ne crois pas qu'on puisse dire beaucoup plus. Cherchez si vous trouvez. Je ne crois pas qu'on puisse dire beaucoup plus. Oui.
Est-ce qu'on peut réfléchir au lieu par rapport au tout de l'univers ?
Oui, par rapport au tout, c'est pour ça que je dis, il monte vers le tout.
Mais quel sens ça a du côté de la limite par le bas ?
Mais comme vous ne connaissez pas le tout, vous posez que la figure de l'univers doit être la sphère. Les anciens en étaient sûrs parce qu'ils disaient le mouvement circulaire. On est. Je crois que je ne peux pas dire plus. Autrement, j'irai vers un point de vue imaginatif. Mais c'est le tout. C'est le tout. C'est l'aspiration du tout.
Mais si c'est le mouvement vers le haut, c'est la direction vers le tout, le mouvement vers le bas, c'est la direction vers le centre.
Oui, vers le centre, tout à fait. Mais le centre ne finalise pas.
Mais c'est le point de départ.
Quoi? C'est un point de départ. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est sa limite. Quelle différence y a-t-il alors? Pas au point de vue géométrique, hein? Ne réfléchissez pas au plan géométrique. Réfléchissez au plan physique. Le tout est le centre. Le centre équilibre. Le tout finalise. La stabilité. La limite stabilise. Le monde physique est stabilisé par la limite. Alors voyez, il y a un lien entre le centre et la sphère, le tout. Mais la sphère contient le centre, pas l'inverse. C'est pas le centre qui se tient à la sphère. Vous avez dit, et ça fait comprendre cette parole des anciens, la terre aux larges épaules. C'est-à-dire que la terre a toujours un certain sens de la stabilisation. Ça, c'est la chute vers le bas, vous voyez. La pérasse, ça attire. Tandis que moi, j'y lève. Vous avez les deux. Et la terre aux larges épaules stabilise. C'est la stabilité. Et puis, de l'autre côté, c'est la perfection. Le tout. Je ne crois pas qu'on puisse aller beaucoup plus. Réfléchissez. Quand vous aurez trouvé des trouvailles là-dessus, vous me direz oui.
À propos du repos, comme vous disiez, la terre, elle est le repos en sens qu'elle arrête le mouvement.
Oui, stabilise.
Mais est-ce que ce n'est pas très relatif en sens que la terre elle-même est en mouvement? La science vous dit qu'elle est quelque chose.
La science vous dit ça. Faites pas appel à la science. Parce que vous êtes coupé du jugement d'existence.
Mais je vois quand même qu'il y a un mouvement par rapport au soleil.
Relatif, n'êtes pas dans le soleil. Le jour où vous serez dans le soleil, pour en parler. Je ne suis pas dans le soleil. C'est très difficile. La science m'exige d'être beaucoup plus prudent. Mais elle ne me permet pas de construire. Voilà.
On ne risque pas de dire que ce repos, c'est complètement imaginatif.
Mais non, c'est pas imaginatif, quoi. Est-ce que c'est imaginatif que ça dégringole? C'est l'imagination que ça dégringole. Non, c'est une réalité. Il y a une attraction vers le centre de la Terre. On ne peut pas nier ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Le TSD, qu'est-ce que c'est? Au niveau des éléments. Donc tu poses physique et tu dois pouvoir comprendre qu'il y a, oui, il y a une attraction vers le centre de la Terre. Je dis une attraction, c'est très curieux. organiser les choses. Et l'autre côté, c'est une attraction vers le sommet. Il y a les deux, et ça c'est... Et vous voyez, ça me semble très important de bien comprendre qu'il y a toujours cette dualité. Et c'est en ce sens-là, vous voyez, qu'il n'y a pas une fin extrinsèque. Elle est intrinsèque. Et alors, à l'intérieur, il y a une fois le poids vers le centre pour se reposer. Tout ce qui est physique en vous appelle le repos. Naturellement. Plus vous êtes gros, plus vous désirez vous reposer. L'attraction. Plus vous êtes aérien, plus vous désirez le mouvement. Aérien et igné. Les ailes du feu. Il faut comprendre cette chose-là du monde physique. Il y a ce double mouvement vers le haut et vers le bas. Et mon corps a ce doublement vers le haut et vers le bas. Parce qu'il y a du feu. Dans cette terre vivante qui est le corps humain, il y a du feu.
Moi, est-ce que chez Aristote, quand il parle de l'enveloppement, c'est pas encore trop marqué par le point de vue imaginatif?
C'est... Oui, mais il faut bien le voir. Je crois que chez Aristote, c'est plus imaginatif. C'est pour exprimer cette chose du centre qui attire. Oui. Et c'est vrai. C'est une limite, mais c'est une limite très particulière qui stabilise. Or, la stabilité est quand même une qualité. C'est une stabilité, c'est une qualité. Et on voit très bien que les gens, oui, au fond, vous avez là le point de vue du conservateur et du révolutionnaire. Hein. Vous voyez, vous avez les deux. Le feu est révolutionnaire, comme tout le monde sait, parce que les révolutionnaires brûlent tout. Ça fait partie du révolutionnaire. Ça fait, oui, c'est. Et il manifeste sa puissance en brûlant. Et plus il brûle, plus il est révolutionnaire. Tandis que le conservateur, il stabilise. Alors il est momifié de temps en temps. C'est les deux aspects qui sont en nous. Et au fond, la perfection implique les deux. Je ne peux pas séparer. Quand je sépare, c'est dialectique. C'est dialectique de séparer. La dialectique met une opposition là où il y a l'immanence. Oui. Et si je serais tout à fait conscient, en réalité, je ne dirais pas du tout que l'immanence, c'est 3, l'immanence, c'est 4. Le feu, l'air, l'eau, la terre. Ça, c'est l'immanence. L'immanence physique, c'est 4. 3 provient de l'esprit. C'est l'esprit, 3.
4, c'est le mouvement stable, le mouvement le plus stable.
La terre.
Oui.
Ah oui. C'est pour ça que, d'une certaine manière, ça finalise. C'est la limite, mais ça finalise. C'est pour ça que c'est la limite de celui qui enveloppe. Pour exprimer cette finalité dans la fin. C'est pas une pure limite. C'est un mouvement incessant. C'est très curieux. Hein. Mais je crois que c'est... Faut pas rejeter ça trop vite. Il faut y repenser, repenser ça, en essayant de comprendre ce que ça représente, cette espèce d'opposition, de contraire, mouvement vers le haut, vers le bas. Parce que les autres mouvements sont extrinsèques, sont pas caractéristiques des éléments. Ça, c'est caractéristique, c'était propre. La terre et le feu. Et tous les médiateurs. Et vous voyez, il n'y a pas qu'un médiateur, il n'y a pas qu'un métaxu. S'il n'y avait qu'un métaxu, on serait 3. Il y en a 2. Ce qui montre que la dialectique est le fruit de l'intelligence et non pas le fruit de la réalité. Parce que l'intelligence qui fait droit à cause du syllogisme. Vous il y a trois termes. Il y a trois pieds dans le syllogisme. Ça, c'est le raisonnement de l'intelligence. Mais il y a quatre fondements, comme dit un pédocle. Il y a quatre racines fondamentales de notre univers. Puisque c'est un pédocle premier qui a vu les quatre éléments. Donc il faut le saluer avec respect. Dès qu'on parle des éléments, un pédocle, les quatre racines. C'est quand même une trouvaille. Et depuis, on n'a pas changé. Et le raisonnement implique trois termes. Donc trois éléments.
Lequel est abstrait ? Lequel est mis de côté ?
Lequel s'ajoute ? Ouais, je dirais plutôt lequel s'ajoute. Vous voyez ? Puisqu'il est premier. Alors on peut dire qu'il est mis de côté, il est abstrait. Vous voyez ? Vous avez. On peut. Et c'est intéressant parce que. Pensez à la dialectique. Vous avez donc les quatre pivots de la Terre. Ce qui est évidemment le plus intéressant, c'est les deux extrêmes. Feu. Deux intermédiaires. L'un plus proche de la terre, l'eau, l'autre plus proche du feu, l'air. Il y a deux métaxus. Si vous prenez maintenant au contraire le point de vue du syllogisme, vous avez le grand terme, le petit terme et le métaxus. Raisonnement à trois termes. Alors le métaxu est l'analogue, hein, l'analogue de l'eau et du feu. Alors c'est ça que vous voulez demander. Il y aurait donc deux dialectiques, une de l'eau et l'autre de l'air. Hein, c'est ça que vous voulez. La dialectique de l'air d'en haut, la dialectique de la terre. C'est pour ça qu'il y a dans la dialectique hegelienne la gauche et la droite. La gauche, c'est évidemment l'eau, et la droite, c'est évidemment l'air. Oui. Parce qu'il y a une instabilité foncière dans la dialectique. Il n'y a pas de repos. Il n'y a plus de contemplation. Donc vous oscillez tout le temps vers la droite, ou vers la gauche. Vous ramenez tout à la terre, vous ramenez tout au feu. Et les deux cherchent une stabilité là où elle n'est pas. La dialectique de la droite cherche la stabilité dans la Prusse, ce qui n'est pas une stabilité, et la dialectique de la gauche la cherche dans la terre, dans le marxisme, dans le prolétariat. C'est très curieux, hein ? Dialectique de la droite, dialectique de la gauche. Bon, nous allons continuer, sauf s'il y a encore une question. Parce que oui.
Est-ce qu'on veut dire que le feu manifesterait plus la nature forme et la terre plus la nature matière ?
Sûrement, sûrement. Ça c'est sûr, puisque la matière et la forme sont dans les deux. Oui, puisque c'est un pose. Donc je ne suis pas au niveau. Mais c'est évident que l'élément dominant, la forme, c'est dans un sens que c'est la fin. La forme conduit vers la fin. Et quand la fin est immanente, la fin se ramène à la forme. Oui, tout à fait. La terre, elle symbolise la matière, ça c'est sûr. Oui.
Dans les autres mouvements, le mouvement local, est-ce que par analogie, il y aura un lieu ?
Il n'y a pas de lieu directement. Non. Il n'y a pas de lieu. Parce que les autres mouvements, c'est quoi ? C'est l'altération. Oui. L'accroissement. Alors, c'est chez le vivant, c'est chez le vivant. Mais autrement, dans le monde physique, c'est l'altération. Donc c'est la corruption de l'individu. Au sens propre, vous voyez.
Et donc l'érosion.
Oui, l'érosion. Mais l'érosion se fait, vous voyez, la transformation interne par l'altération. Et ça peut toucher le point de vue du lieu. L'altération peut changer la terre en eau et l'eau en vapeur et la vapeur en feu. Oui, donc, mais c'est toujours le mouvement local qui est le dernier mouvement. Donc l'altération est de l'ordre de la disposition, pas plus. Donc ne donne rien de nouveau. Oui, tandis que le mouvement local touche quelque chose de substantiel. C'est le mouvement parfait. C'est pour ça qu'Aristote dit toujours le mot local, le mouvement parfait. C'est le seul mouvement parfait. Et là, il donne la raison, lui, comme il y a le mouvement circulaire. Vous voyez ? Et le mouvement circulaire est sans altération. Puisqu'il est circulaire. Tandis que le mouvement vers le haut et vers le bas va impliquer l'altération comme disposition pour expliquer ce mouvement incessant. La conquête incessante. Mouvement, c'est l'acte, l'intellect ailleurs. stimule, qui donne une signification existentielle au lieu et une signification existentielle au temps. La signification existentielle du temps qui s'accroche au mouvement, ce qui émeut, ne pourra être formalisé que par l'intelligence, tandis que le lieu est formalisé par lui-même. Il est le terme du mouvement. Il est le terme de ce qui est de l'enveloppant. Et de même que le mouvement est toujours autre, de même le temps pris tout d'une pièce en entier est le même. Car l'instant est le même dans son sujet, mais dans son essence est autre. Alors, petite distinction très importante. Le tonun est le même. Le tonun est le même dans son sujet. Et le tonun est autre dans son to-einein, dans son essence elas. Voyez, regardez le texte grec pour ceux qui peuvent le regarder, hein, parce que c'est intéressant de voir ça. L'instant est le même dans son sujet. Vous savez que Tricot, et puis constamment, traduit le to. Réfléchissez là-dessus.